Et bonjour, une nouvelle émission de « Et si on en parlait ?». Alors, il y a beaucoup de brouillard aujourd'hui. Il y a Johan à la technique, avec une barbe toute neuve, toute belle. Et mon invité d'aujourd'hui, c'est Lise Plume. Bonjour.
Bonjour Michel.
Lise Plume, c'est ton... En fait, t'appelles Elisabeth, non ?
Isabelle.
Élise, c'est ton nom de
pseudo,
scène,
comment, voilà, comme pseudo. Mon nouveau nom, voilà.
D'accord, mais c'est très bien. Alors là, tu viens nous présenter ton second disque.
C'est ça.
Qui s'appelle donc À la lueur des mots. C'est toi qui as tout composé,
oui.
Paroles et musique.
Oui.
Mais c'est très bien, super.
Merci.
Et tu composes comment?
Alors, je compose devant mon piano.
Tu joues du piano?
Oui, un petit peu. Oh, je suis plutôt clavier, je dirais, parce que j'ai pas un niveau piano très élevé. Donc j'ai une idée qui arrive suite à une émotion, un ressenti, une confidence de quelqu'un, et je cours au piano vite enregistrer avec mon dictaphone.
D'accord.
Voilà l'idée.
Alors, on va essayer de mieux te connaître. Je vais te poser plein de questions, tu réponds ou pas, peu importe. Mm-hmm. Tu es né où, quand, comment, pourquoi? Ça fait quatre questions déjà.
Pourquoi ça fait partie du grand mystère de la vie. J'avais sans doute quelque chose à faire ici.
Oui.
Je dis peut-être missionnaire dans ma voix, voilà, pour les gens, afin de leur apporter du rêve, peut-être un bien-être, un apaisement, un écho, quelque chose, une chanson qui se retrouve. Hein. Voilà.
Tu es né quand?
Genre, je suis née le 4 juin 67. Donc je commence à être un petit peu vieille.
2017,
voilà.
Ça fait combien ça? 67, je calcule, 67. 67, ça fait 3. Ça fait
50 ans.
50 ans.
J'ai 50 ans.
Ah, mais tu le parais absolument pas.
Oui, je sais. J'ai trouvé la bonne crème.
Ah ouais, ça, voilà. Tu es né où?
Donc je suis née à Montauban.
D'accord. Et là, tu arrives d'ailleurs de Montauban.
De Montauban.
Oui. Avec, tu as des frères et sœurs?
Oui, j'ai un frère. Hein, on a 14 ans d'écart. Qui est à Bordeaux.
Plus jeune ou
plus jeune.
Plus jeune. Et tes parents?
Et
tu les as?
Oui, toujours, oui. Vivants.
Ils font quoi,
voilà,
ces parents?
Ils sont très jeunes aussi. Alors, ma mère, ils sont tous les deux à la retraite. Mon père était employé de banque à la Caisse d'épargne et ma mère était secrétaire à l'AFPA, formation professionnelle pour adultes.
D'accord. Et alors, tu as fait tes études sur Montauban, je suppose?
Tout à fait, oui. Je suis partie juste une année à l'âge de 12 ans à l'Institut des jeunes aveugles, dû à mon problème de vue.
Donc,
juste un an.
Ah voilà, ben on va en parler deux minutes. Parce qu'il y a marqué malvoyante. Tu es malvoyante ou aveugle?
Non, je suis malvoyante.
Ah, c'est-à-dire, donc tu vois
un petit peu. C'est ça.
Très, très bien. Mm-hmm. Et tu es venue avec ton chien, ton
mon
compagnon.
Mon chien guide.
Guide qui s'appelle?
Elle s'appelle Estia.
Extraordinaire.
Ouais.
Je ne sais pas si c'est indiscret ou pas, tu es aveugle de naissance ou
non,
comment,
pas de naissance.
Malvoyante, pardon.
Non, pas pareil, oui, ça s'est produit surtout à l'âge de 7 ans, ça s'est déclenché. Et j'étais atteinte en fait de deux maladies orphelines dont mes parents étaient porteurs. Ça, on l'a su qu'il y a quelques années, très peu de temps, au CHU de... à l'hôpital 15-20 de Paris. Voilà. Et
Parle bien dans le micro.
Oui, pardon. Voilà. Oui, donc je suis atteinte de deux maladies orphelines.
Oui.
Maladie de Stargardt. C'est une dégénérescence de la rétine.
D'accord.
Et ainsi qu'une démella aussi. Oui. J'ai deux maladies.
Oui. Voilà. Ça n'empêche pas que ce soit très, très belle.
Merci.
Et alors, tes études, t'es allée jusqu'où en études?
Alors, je suis allée parce que j'étais piquée par la musique. Voilà, j'avais cette idée en tête. Donc, ils auraient voulu me faire aller jusqu'au bac. Mais déjà, en première, j'ai décroché. Enfin, seconde, je fichais pas grand-chose, en toute honnêteté. Et j'ai fait un BEPA, après sanitaire et social. Mais j'avais que cette idée. Je n'osais pas encore l'exprimer, mais j'avais cette idée de chanter et de faire de la musique.
D'accord. Tu as commencé à écrire des poèmes quand?
Alors, j'avais écrit deux ou trois poèmes comme ça vers 18 ans. Ensuite, je laissais tomber. J'écrivais des fois des pensées, des phrases qui me venaient sur un cahier. Et je m'y suis remise vraiment sérieusement il y a 5 ans, grâce à un ami qui a trouvé les deux textes « On repart à zéro et je m'envole » qui sont sur l'album. Et il les a trouvés tellement bien, il m'a dit, mais tu vas tout de suite te remettre au piano et à l'écriture. Tu vas reprendre ta plume. Donc voilà, je l'ai écouté, ça a été très dur. Il m'a imposé 4 heures de piano. On devait se revoir dans 2 mois après pour voir si j'étais capable de faire de la scène et voilà, qu'est-ce que ça donnait ou si j'allais prendre un pianiste. Puis il m'a dit, tu te débrouilles très bien. J'étais très déçue parce que je peinais tellement et j'espérais qu'il me dise tout le contraire. Non, il me dit, c'est super, tu vas t'accompagner toute seule comme une grande.
C'est super. Et donc, sur scène, tu t'accompagnes, toi, au piano?
Oui.
Et tu as d'autres musiciens?
Non, parce que alors, c'est juste une histoire de budget, hein, parce que, évidemment, je connais violoniste, je connais tous les gens qu'il y a sur l'album. J'aurais de quoi être accompagnée, mais c'est qu'une histoire de budget.
Tout voilà. Fait. Et tu vis de quoi, alors, en ce moment?
Eh bien, je donne quelques cours de chant. Je fais un petit peu de quelques restos, quelques soirées. Et puis, voilà, après, je démarche beaucoup auprès des radios. Après, évidemment, je touche quelque chose par mon handicap. Hein.
D'accord. Et alors, tu as fait un premier disque qui s'appelait comment ?
Éclat d'âme.
Alors, ces deux disques, on peut les trouver où ?
Alors, le premier disque, il n'en reste plus qu'une dizaine. Moi, je suis en auto-entreprise. Il faut me contacter sur Facebook. Et le second également. Alors là, on peut le trouver à Cultura de Montauban.
D'accord. Sur Facebook, c'est quelle adresse ?
Alors, on tape, on me cherche à Lise Plume, LIZPLUM. Ouais. Voilà, sinon dans Google vous me trouvez aussi www.lisplume.fr.
D'accord, très bien. Alors on va écouter un premier morceau avant de toucher le soleil. Alors là tu veux parler de quoi alors?
Ah, alors avant de toucher le soleil, pas mal de mes chansons sont à connotation spirituelle. Il faut savoir lire entre les lignes, je dis souvent. Donc avant de toucher le soleil, c'est une chanson d'espérance. À chacun de trouver son propre soleil intérieur. Voilà, c'est un petit peu le voyage intérieur que je propose de chacun.
D'accord.
À travers ces mots.
Eh bien, on va écouter avant de toucher le soleil. Avec ce temps qu'il fait, ça va faire du bien.
Souvenir se chiffonne sous nos ailes meurtries. Nos regrets qui s'embrument sur nos cœurs endoloris. Et soudain tout s'allume pour mieux nous sortir de la nuit. Avant de toucher le soleil, avant de toucher le soleil, avant de toucher le soleil, avant de toucher le soleil. Vouloir la saison des lunes de nos terres sacrées, vouloir gravir les dunes de nos pas fatigués, boire à toutes les fontaines de nos désirs cachés. Quand coule dans nos veines cette soif de liberté. Avant de toucher le soleil, 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 regardez sans y voir cette douce clarté. Quand le ciel se fait noir sur chacune de nos pauvretés, et plongez dans l'ivresse de nos chemins secrets, goûtez à d'autres caresses quand sonne l'heure de vérité. Avant de toucher le soleil, 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 avant de toucher le soleil.
Avant de toucher le soleil, Lise Plume, c'est très jolie voix.
Merci.
Et alors, les musiciens qui sont avec toi sont,
oui.
Super.
Fabuleux. Ce sont vraiment des pointures. J'ai une chance, là, d'avoir rencontré des gens extra.
On peut en parler de quelques-unes, d'ailleurs.
Oui.
Donc, je sais qu'il y a Philippe.
Oui, alors Philippe, c'est...
Le métronome.
C'est mon oui, je l'appelle comme ça. Tout le monde a le métier. C'est un super batteur. C'est quelqu'un de très discret, très posé, qui a beaucoup de goût, qui passe beaucoup de temps en studio, à passer tous mes morceaux peigne fin, à écouter, réécouter, essayer des sons. Vraiment, il peaufine ça avec beauté. Et donc, lui, voilà, il fait la batterie, et il est arrangeur, il est donc sonorisateur. Ensuite, la violoniste, ça, je me suis régalée à rencontrer cette fille,
Lucie,
voilà. Lucie, par un autre ami de notre studio, qui en fait était là, aux alentours de Toulouse, parce qu'à ce moment, au moment où j'avais besoin d'elle. Habituellement, elle vit dans les grottes, donc on ne sait jamais où c'est qu'elle est, c'est un vagabond, oui. Mm-hmm. Et elle est fille de parents au conservatoire du Capitole. Elle est devenue très bohème, donc elle se promène partout avec son tout petit chien, qui est minuscule, son tout petit chien et son violon. Elle fait les restos, tout ça, voilà, elle travaille au chapeau, dans les rues, et elle a un son, et elle a du goût. Je lui ai donné ses morceaux, elle les a écoutés, très peu de temps avant, et en un jour, elle a posé son violon pour 3 titres dans la journée, et c'était superbe, quoi.
Très joli.
Superbe. Donc ça, c'est vraiment une belle rencontre. Nous raconter sa vie, voilà. Mmh. C'était super. Ensuite, donc, il y a les percussionnistes. Arnaud, excellent, avec Jimmy, excellent, virtuose de la guitare, aussi, qu'on entendra sur notre titre. Bassiste, il y en a deux, Laurent Ota, très gentil et très efficace aussi. Pascal Puybonieux qui était dans un orchestre avec moi, voilà, un ancien copain. Ensuite, Patrick Duzo qui m'a refait les parties piano, voilà, là, ça, vraiment, c'est un grand niveau piano. Michael, voilà, qui a fait des arrangements aussi dans Nos états d'âme, dans Tu es mon péché mignon, qui a commencé à donner les premières trames.
Colline,
qui a été guitariste plus aussi. Oui, Colline, qui, je suis allée la chercher au conservatoire de Montauban, ainsi que le violon,
Pierre-Yves,
voilà, Pierre-Yves Meyer.
Très bien. Et bon, donc, je continue à parler. Il y a Benoît pour un graphiste, photo,
oui,
tout ça.
Oui, tout à fait. Et ensuite,
Prisca.
Oui, Prisca. Alors ça, c'est sa compagne qui m'avait maquillée et coiffée. D'accord. Pour la photo de l'album.
Jean-Marc.
Voilà, ça c'est mon compagnon qui travaille beaucoup dans l'ombre et qui met beaucoup de choses en lumière.
D'accord. Fred.
Et Fred Mastering, c'est celui qui s'est occupé de tout le mastering, qui est très, très renommé, qui travaille avec les États-Unis. Voilà, qui est excellent.
Et puis tu remercies tes tantes, Anne-Marie, Solange.
Oui, tous les gens qui ont corrigé, relu l'album.
Nadie.
Voilà. Voilà.
Eh ben c'est super.
C'est ma mère qui a aidé à orner un peu l'album avec ses beaux tableaux, ses peintures.
Oui, c'est très joli. Hein. Et les photos sont très belles aussi.
Oui.
C'est impeccable.
Oh. Oui, oui.
Super. Impeccable.
Merci.
Alors, ensuite, tu as choisi, donc c'est toi qui as choisi les morceaux. Hein.
Oui.
Oui. Tu as choisi Baiser Pamplemousse.
Oui, parce que je trouve que c'est une idée originale, pleine de fraîcheur. Et voilà, tout le monde s'y retrouve un peu, les ados comme les personnes plus âgées. Tout le monde me chante Baiser Pamplemousse souvent. Et sur scène, je fais venir une ado qui me demande de le chanter avec moi. Voilà.
Baiser et pamplemousse, c'est un peu amer, le pamplemousse, quand même.
Oui, mais c'est sucré, c'est frais, quand même. C'est quand même très sucré, le pamplemousse. C'est beaucoup plus sucré, même, que l'orange. Contrairement à ce qu'on croit. Si. Mon expérience le dit.
Je te crois. Alors, après un chemin long et difficile, je ne crois pas au hasard.
Oui, pour moi, le hasard, c'est la forme que prend Dieu pour passer incognito. Je n'ai jamais cru au hasard.
Donc,
c'est
tu crois Jean à Dieu, alors.
Jean Cocteau, oui. Ah oui, ah. Je trouve que c'est une phrase très, très belle et très vraie. Il n'y a rien au hasard. Les rencontres, à l'instant où on se trouve à tel endroit... Non, il n'y a rien. Tout est tissé pour moi. Tout est tissé, tout est écrit. Après, il faut forcer le destin. Répondre présent, répondre oui. Quand c'est le bon moment, savoir faire les bons choix aussi.
D'accord.
Ça aussi.
Alors, croire en Dieu, tu as toujours cru en Dieu ou c'est...
Ah non, pas du tout. Non, je l'ai rencontré comme je rencontre quelqu'un, comme je te rencontre aujourd'hui.
Non, ouais, mais tu viens de rencontrer Dieu.
Voilà, c'est ça. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Donc, non, mais ça a été vraiment une rencontre foudroyante, voilà. Je ne voulais pas y aller, on m'a traînée presque dans une église charismatique, catholique. Voilà, c'était pas du tout une secte, je précise. Et c'était vraiment l'Esprit Saint à l'œuvre. C'était pas du tout l'Esprit Saint que l'on connaît dans nos pauvres églises du dimanche où il dort, il se passe rien, enfin, entre guillemets. À part qu'on ait une foi, une grande foi, ça peut arriver. Mais la flamme est faible. Tandis que dans ces moments, dans ces lieux comme ça, charismatiques, on évoque, c'est le feu. C'est le feu dont il y a des guérisons, il y a des rangs. On peut pas passer à côté. Ça, on est remué. Soit on lâche, soit on... Voilà, mais moi, j'ai été bouleversée ce jour-là. Je suis plus redevenue en quelques secondes. J'ai senti comme une grande douche de chaleur, un grand feu me passer en moi et quelqu'un qui s'est révélé à moi comme un amour, quelque chose de à la fois palpable et invisible. C'était très très curieux.
Donc voilà. Ça, c'était après avoir touché le soleil. Alors, du coup. T'as senti la grande chaleur là.
Ah non, ça c'était bien avant.
Non, mais j'ai rigolé.
Non, c'était bien avant.
C'est bien. Brassens, il disait, j'aimerais avoir la foi, c'est pas pour toi que je dis, j'aimerais avoir la foi de mon charbonnier qui est heureux comme un pape et con comme un panier. Ça veut pas dire du mal, ça veut dire...
Non, oui, oui.
Heureux,
oui.
Ben, ça veut dire que les gens qui ont la foi, ben, ils n'ont pas peur, par exemple, de mourir, je suppose.
Ah oui, c'est vrai.
Et moi qui suis athée, Dieu merci, et j'ai peur de mourir, bien sûr.
Oui.
Enfin,
oui.
C'est très bien que je suis pas contre les gens qui ont la foi, bien sûr.
Ah oui.
Chacun ses voix midi à sa porte. Eh bien, écoute, hein, baiser pamplemousse.
Voilà.
Un sourire de toi, un accro à ma voix, un mot doux dans tes bras, que j'aime ça. Quand je suis face à toi, je compte sur mes doigts ce qu'il reste de moi, je ne sais pas. Faire confiance au soleil, à la lune qui veille, un morceau d'arc-en-ciel, un refrain de toi. Tu es mon évidence, ma plus belle confidence, ma douceur, mon essence, à quoi tu penses? Donne-moi baiser pamplemousse pour que ma vie soit douce. Donne-moi un baiser cannelle pour que ma vie soit belle. Si farouche, de toi j'en ai l'eau à la bouche, sans rien faire tu me touches, touches, touches. Un amour aquarelle, un peu confidentiel, mais pas artificiel. Est-ce que tu te rappelles goûter à ton enfer et quitter ton empire? Tout le bien reste à faire, du mal à me défaire. S'aimer en continu dans nos vies décousues, je serai toujours celle dans une vie parallèle. Toi, mon tendre poison, ma plus belle saison, ma plus douce illusion, mon bel horizon. Donne-moi un baiser pamplemousse pour que ma vie soit douce. Donne-moi un baiser cannelle pour que ma vie soit belle. De tes bras, prends garde à vouloir me séduire et toujours m'éblouir. Par ton malin plaisir, je saurais bien m'enfuir. J'apprendrai face à toi à décroiser les doigts. J'apprendrai de toi que tu vis bien sans moi. Prends garde à te m'y prendre, je saurais me défendre. Je ne te donnerai pas tout, tu pourrais bien le prendre. Donne-moi un baiser pamplemousse pour que ma vie soit douce. Donne-moi un baiser cannelle pour que ma vie soit belle. Quand le destin fait mouche, ne sois pas si farouche. De toi j'en ai l'eau à la bouche, sans rien faire tu me touches, 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 touches.
Baiser pamplemousse, c'est très joli. Alors, tu voulais me parler d'une cinéaste. Tout à l'heure. Bon, on en parlera tout à l'heure. Alors, tu as fait des premières parties, donc style Herbert Léonard, oui. Image, Mike Shannon, etc.
Mike Shannon, c'était, j'étais choriste, juste.
D'accord. Mm-hmm. Et tu fais de la scène depuis quand exactement?
Depuis l'âge de 20 ans, mais j'ai commencé dans les orchestres. Voilà, donc musette, variété, mais très vite j'ai découvert le piano bar à travers un ami qui tournait beaucoup et qui m'invitait lors de ses soirées à lui faire des chœurs, alors se régaler. Là j'ai adoré parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait choisir ses chansons contrairement à l'orchestre. C'était vraiment des textes qui me collaient à la peau, des voix. Voilà, donc j'ai très vite arrêté l'orchestre et je me suis dirigée vers les piano bars et les animations de ce type-là.
Mais c'est quand même plus facile de vivre de la musique que dans un orchestre, non ?
Tout à fait, parce que là, c'est le chef d'orchestre qui trouve les dates et il se débrouille pour qu'on ait le quota chaque année. Donc,
Donc tu as été intermittente du spectacle.
Tout à fait, d'accord. Tout à fait. À l'orchestre, oui. Oui. Mais après, c'était encore la belle époque. C'était les années 70-80. Il y avait du travail pour tout le monde. Donc, je tournais beaucoup, au moins deux fois par semaine, les week-ends, avec un autre guitariste. Et je tournais autant que dans l'orchestre.
D'accord.
Ça durait un moment, ça, oui.
Et là, maintenant, tu tournes moins. Hein.
Ah, maintenant, je tourne beaucoup moins, comme tout le monde. Et là, c'est vraiment.
Comment tu fais pour chercher tes dates ?
Eh bien, système D, à la maison, je passe du temps au téléphone. Voilà. J'appelle, j'essaie d'avoir aussi des contacts par d'autres potes. Et voilà, comme je peux.
Pour revenir à Dieu, est-ce que ça t'aide à Dieu dans tes croyances ? Ça t'aide pour le fait que tu sois malvoyante, est-ce que ça t'apporte quelque chose ou pas ?
Ah oui, il m'aide vraiment, c'est un ami précieux qui me soutient, des fois qui me parle.
Le chien te soutient plus quand même, non ?
Non, c'est pas pareil.
Ah, bon ?
Ah non, c'est pas du tout pareil, c'est très complémentaire.
C'est complémentaire les deux ?
Voilà, c'est ça. Le chien, il m'aide pour me déplacer. Mais le Seigneur, il m'aide à l'intérieur de moi à faire des choses. Par exemple, à appeler une personne au bon moment. Souvent, on me dit, ah, incroyable, j'allais t'appeler. Ou voilà, à me donner de l'intuition, à me guider. Il me guide dans la vie. Ben, il me rebooste quand des fois j'ai un peu le blues. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Mais vraiment, comme je dis maintenant, avec humour, je suis dans le flou artistique. Mais c'est pas facile à vivre. Parce que je suis une amoureuse de la peinture, de la photo, des couleurs. Je peignais et je photographiais beaucoup quand j'étais jeune, je m'évadais beaucoup à travers un paysage parce que ça remplit. Quand on voit, on n'imagine pas. À chaque fois qu'on pose ses yeux sur la télé, sur un magazine, sur un paysage, mais ça remplit, ça fait du bien. Les couleurs, les formes.
Mais ça, c'est l'absence de tout ça. Est-ce que c'est vrai que cette absence, justement, ça développe d'autres sens ?
Moi, je vais dire que ça développe pour moi deux vertus. Le fait de presque plus y voir, la patience, l'humilité et d'aller à l'essentiel. Voilà, je vais à l'essentiel des choses et des gens. Je me laisse pas distraire par leur apparence, puisque évidemment je les vois très peu. Voilà. Après aussi c'est mon côté spirituel, j'ai toujours été aussi comme ça. Hein. Voilà, sans perdre la vue, j'allais à l'essentiel de la vie, des gens, l'importance, pourquoi on vit, l'importance de qu'est-ce qu'on a à faire ici. Voilà.
Et qu'est-ce que tu as à faire ici? Bon, ici, la radio, je veux dire.
Mais moi, je pense que c'est vrai que j'aide beaucoup quand même les autres. On se confie, je ne demande rien. On vient beaucoup à moi, on se confie beaucoup. Je connais pas mal de choses qui apportent, que ce soit dans l'hygiène de vie, que ce soit dans mes connaissances justement spirituelles ou psychologiques, dans les thérapies. Je connais beaucoup de choses. Ça, et puis mission... Tout cela, tout ce que j'ai vécu, toute ma souffrance, parce que j'ai eu vraiment de grosses galères, indépendamment des yeux, très très lourdes, très très lourdes. Je reviens de très loin. Si j'avais pas rencontré le Seigneur, je n'aurais jamais chanté. J'aurais fini dépressive, assise sur une chaise, à rien faire. Voilà, ça c'est garanti.
D'accord.
Donc ça c'est énorme. Il m'a sorti vraiment de mon tombeau, comme je dis, de l'ombre de la mort. Je m'en sers pour aller vers les autres, pour partager, pour leur donner du bonheur. Moi, pour me faire plaisir, pour m'épanouir sur scène. Voilà, tous les dons qu'il m'a donnés. En fait, on a tous des dons, on en est conscient ou pas.
Et alors, ça c'est moi ce que je pense, en fait, j'en sais rien. C'est une question que je pose. Si Dieu existe, donc, Mais il ne doit pas être bien gentil à faire tous ces morts, toutes ces catastrophes, toutes ces... Qu'est-ce que tu en penses?
Ah non, ça mais non, non, mais alors là, je ne suis pas du tout d'accord. C'est que lui, il s'arrache les cheveux pour qu'on vienne vers lui. En fait, lui, ce n'est pas un violeur. Ici, sur Terre, lorsqu'on est parent, on aime... On fait tout, par exemple, pour que... On va à l'encontre d'une liberté de l'enfant si, par exemple, il prend un risque. Le Seigneur, il nous laisse totalement libre. C'est notre papa du ciel. Et ça, c'est l'œuvre des hommes. Parce qu'en fait, c'est à nous, on libre arbitre, libre choix à nous. On a le mal et le bien à nous. Libre à nous de laisser gagner le mal qui va dominer, qui va, du coup, nous amener à faire des actes terribles. Et lui, il ne peut rien faire parce qu'on lui demande rien. Et il ne demande que ça, à nous remplir d'amour pour qu'on ait plus envie d'agir ainsi. Mais l'homme est tellement, actuellement, tellement loin de Dieu, et c'est le prince de ce monde, ce n'est pas le Seigneur, hein, pas du tout.
Hein. Donc tu crois au diable,
là? Ah, complètement. Ah oui, d'accord. Oui, ça oui, oui, fermement. Voilà, j'ai eu suffisamment de manifestations autour de moi, et même pour moi, oui, oui, oui. Franchement. On le laisse faire, donc c'est le mal, c'est le prince de ce monde. Et le Seigneur, il ne peut rien faire. Mais il pleure des larmes de sang à nous voir se déchaîner et faire tout ça. Ce n'est pas son œuvre. Mais il nous laisse totalement libres, voilà, de faire le bien ou de faire le mal. Si on va vers lui, il nous comble de tout, absolument de tout. Mais si on ne va pas vers lui, eh bien voilà ce qui se passe. Tout ce que l'on voit.
Est-ce que tu n'as jamais écrit des chansons sur ça, sur ce sujet?
Non, c'est vrai que pourtant je suis profondément croyante. En fait, ma première aspiration, c'était d'écrire des chansons à connotation spirituelle pour toucher les prisonniers. Parce que j'ai chanté dans des prisons, j'adore ça. Maintenant, c'est beaucoup plus dur. Voilà, il y a trop de monde et c'est dur. Ils aiment changer d'artiste régulièrement. Mais c'est vrai que, par exemple, « Et je m'envole, on repart à zéro ». Ils sont tous autour de moi. Et dès que je me mets à chanter, bon, j'évoque l'Esprit Saint. Hein. Et d'ailleurs, je peux témoigner que dans des prisons, on m'a dit « Ici, c'est des têtes brûlées, vous allez vous amuser. Je vous avertis, ça ne va pas être la tarte. » Mais moi, je dis « Le Seigneur est tout-puissant. » Je prie en silence avant. J'arrive au micro. Je leur dis bonjour. Et c'est le silence complet. Ils sont scotchés. Et ils ont des larmes. À la fin, ils ont des larmes parce que mes chansons les touchent. Non, le Seigneur est tout-puissant. Voilà la preuve.
D'accord, ben on va écouter « Et je m'envole » alors tout de suite, voilà. La chanson que tu as choisie après.
Encore une nuit sans sommeil, devoir attendre le réveil, une nuit profonde glacé. Le cœur tourné vers les étoiles, même quand la nuit se voile et disparaître dans la nuit. Et je m'envole, je sens des anges qui me frôlent. Et je m'envole, et je m'envole pour découvrir le ciel. Un avant-goût d'éternité. J'attends qu'enfin la terre explose, qu'éclate la métamorphose, mon voyage enfin terminé. Et je m'envole, je sens des anges qui me frôlent, et je te donne, et je te donne pour le ciel, te faire toucher l'essentiel, un avant-goût d'éternité. Et je m'envole, je sens des âmes qui me frôlent, et je t'emmène, et je t'emmène loin de ce monde sans soleil, ouvrir la porte du paradis.
Et je m'envole. Très joli. Très joli. Les mélodies, elles te viennent comment?
Oui, alors elles me viennent... là, cette chanson, justement, on parlait de Dieu. Justement, c'était au moment où je venais d'être convertie. Un jour, je me suis trouvée, je priais toute la, j'étais branchée, comme je disais, toute la journée, même encore, j'essaye de l'être. Mais au début, c'est vrai qu'on a tellement le feu, ça déborde et on ne pense qu'à ça. Qu'à Dieu, qu'à être branché, tellement qu'on est bien en sa présence. Donc, un jour, je me suis trouvée devant mon piano, je venais de prier. Et il m'est venu, cette mélodie qui est arrivée, deux ou trois mots, et j'ai eu tout de suite l'idée. Je me suis vue, j'ai comme eu une vision, je me suis imaginée au-dessus du monde, étant un oiseau, et spectatrice de cette pauvre terre, voilà, qui se déchaîne, comme je dis dans la chanson. Donc pour moi, c'est intéressant, je disais tout à l'heure, de transmettre le spirituel sans nommer Dieu, mais justement à travers certains mots comme le ciel, comme nuée, voilà, l'amour, la paix, des choses comme ça, pour que tout le monde s'y retrouve sans religion, l'amour universel.
Voilà, ce que tu me disais, oui. C'est que tu es anti-religion, quand même.
Oui, disons, je suis catholique parce que vraiment dans le corps du Christ, l'Eucharistie, on le sent vraiment vivant et proche de nous, dans notre cœur, il se passe vraiment des choses. Et l'adoration aussi, l'adoration, c'est très profond. On est en sa présence, on se laisse façonner par lui. Mais après, oui, je suis anti-religion pour tout le mal que ça fait, toutes les divisions. C'est anti-Dieu. Mais Dieu, il ne veut pas ça, c'est tout le contraire. Il n'est qu'amour.
Et qu'est-ce que tu penses, on va pouvoir, si tu as de l'humour, quand Coluche dit « buvez, c'est mon sang, mangez, c'est mon corps, touchez pas, c'est mon cul », qu'est-ce que tu penses de ça?
Ouais, bon, ça, c'est pas terrible, ça, c'est Coluche, il n'a pas rencontré Dieu, quoi. Ça, c'est clair et net, voilà ce que je réponds.
Dieu lui a repris sa vie, un accident de moto, ouais.
Ah, sûr. Mais c'était son... Et qui te dit que c'était pas son moment?
Bien sûr, ça, je crois que tout le monde a son moment, bien sûr.
Mais
ça,
non, mais c'était peut-être.
Tout le monde demeure, bien sûr.
Non, mais peut-être que c'était au moment de sa vie où après il aurait été pire ou. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer. C'était un bon moment.
Tu vois, quand même,
lui.
Par exemple, un mec comme Coluche, oui. Qui justement était, comme moi, athée, c'est grâce à lui qu'il y a le restaurant du cœur, ça aide à des milliers de gens.
Mais bien sûr, mais il ne savait pas qu'il avait Dieu en lui, parce que Dieu est amour. On a toujours une partie de Dieu en soi.
Mais il
l'avait pas rencontré, mais il avait la vie, qui c'est qui nous l'a donnée, voilà, la création, les créatures, pour moi c'est sûr, c'est lui. Donc il est notre papa du ciel, voilà, donc...
Petit papa Noël.
Ouais, notre père du ciel, oui, il nous donne plein de cadeaux d'ailleurs.
Ouais. Et plein de trucs pas bons non plus, mais bon. Donc tu me dis que c'est le diable,
ça. Non, ça vient pas de lui, ah oui, ça ne vient pas de lui.
Tu me dis que c'est le diable.
Ah oui, il n'est qu'amour, Jésus, ouais.
D'accord, Trump, c'est le diable?
Trump.
C'est le diable?
Je sais pas.
Le président des États-Unis? Et le coréen là, qui
c'est
veut faire
terrible,
la guerre?
Oui, c'est pas terrible. Oui, lui, ils sont trop habités par le diable. Ils sont trop habités, bien sûr. Il n'y a pas de place pour Dieu, là. Ils se sont laissés dévorer par le reste, bien sûr. Et souvent, après, dans notre monde, ce qui ronge l'homme, justement, dans son âme, c'est l'appât de l'argent et l'orgueil. Voilà. Voilà ce qui détruit l'homme.
D'accord.
Et le pouvoir.
Et sur ton premier disque, tu parlais pareil. Tu avais déjà la foi?
Oui, bien sûr. Oui. Ah bon. Bien sûr, parce que oui, tu ne connais pas mon premier album, Éclat-d'âme.
Non.
Éclat-d'âme, voilà, c'est pas pour rien, Éclat-d'âme. Et la première chanson s'appelait Une autre vie. Ça nommait un peu tout ce qu'on vivait aussi sur la terre, en attendant le meilleur, dans l'au-delà. J'ai repris 5 titres sur cet album pour les orchestrer. Mon premier album était uniquement piano-voix. Et il y avait sur les 5, et je m'envole, on repart à zéro.
J'en profite pour dire que sur ce disque-là, qu'on écoute là, il y a de très beaux arrangements.
Ah, mais oui.
Je trouve vraiment très, très joli.
Oui, et puis assez épuré. Je voulais surtout pas, on a tout étudié. Je voulais surtout pas que ce soit trop fourni, que ça étouffe l'essentiel.
C'est sur le studio à Montauban, ça.
Oui, à Mirepoix-sur-Tarn.
Ah, Mirepoix.
Chez Philippe Herrero, oui, audiophile. Le studio audiophile.
D'accord.
Voilà, c'est un amoureux du son, il a un matériel vraiment fantastique. Voilà, il passe tout son temps dans le studio. On a tout étudié, le violon, des choses très épurées. Si on mettait du violon, on n'allait pas mettre de la guitare. Tout était très étudié.
Oui, ben simplifié, quoi.
C'est
un peu ce que faisait Brassens, d'ailleurs.
Oui,
dans
oui.
Toutes ses chansons, il écrivait, et puis après, il l'enlevait,
exactement.
En ne gardant que la substantifique moi, là, comme on
Mais
peut dire.
Mais plus on avance dans le temps, les musiciens te diraient qu'ils réalisent qu'on fournit toujours trop, qu'on étouffe le morceau, et
tout
il faut le laisser respirer, surtout quand il y a des beaux textes et des belles mélodies, ça ne sert à rien de mettre du maquillage.
Tout à fait.
Ça ne sert à rien.
Chasser le naturiste, il revient au bungalow.
Voilà.
Tout à fait. Une autre question indiscrète. Tu n'as pas d'enfant ?
Non, je n'ai pas d'enfant.
Tu n'en veux pas ou tu n'as pas pu en avoir ou si c'est indiscret, tu
ça c'est trop délicat là, à raconter. Oui, c'est je n'ai jamais prouvé le besoin. Toute honnêteté, malgré que je les adore, ça c'est jamais voilà. La vie a fait que plein de choses ont fait que des blessures. Je n'ai pas ça ne s'est pas fait. Mais voilà. Je n'ai jamais souffert. Je n'en souffre pas.
Tout à fait. Puis de toute façon, c'est prévu, comme tu dis.
Sans doute, c'était Dieu prévu. Sans doute, c'était mon chemin. C'était mon chemin.
D'accord. Voilà. C'est rigolo parce que là, c'est vraiment de... Je pense tout l'opposé de toi, mais ça m'intéresse énormément de parler de ça. Tout à fait. Uh-huh. Allez, on va écouter le prochain qui s'appelle « Laisser le passé ». Alors, c'est un jeu de mots ?
Laisser le passé.
Laisser le passé. Faites attention, laissez le passé.
Oui.
C'est laisser... C'est laisser le passé derrière soi.
C'est ça, exactement.
Parce que moi, je dis laisser, tirer, le, laissez-le passer.
Ah non, c'est
pas ça. Je croyais qu'il y avait un jeu de mots.
Je n'avais pas compris, pas du tout. Ah, pas non, du c'est tout. Le passé derrière nous ne nous appartient plus, c'est périmé, c'est fini. Ouais. Le futur ne nous appartient pas, vivons l'instant présent.
Ah voilà, carpe diem. C'est ça, tout à fait.
Oui.
L'instant présent. Je voudrais quand même que tu me parles de cette dame que tu m'as raconté hors antenne, la cinéaste là.
Ah, alors je viens de découvrir sur une radio chrétienne, bien sûr, Nathalie sans H, je dis pour tous ceux qui vont être curieux et je vous souhaite d'être très très curieux. Nathalie Sarraco sans H et Sarraco, S-A-R-A-C-O. Sur YouTube, vous la trouverez. Vous prenez le témoignage le plus long qui dure une heure. C'est dans une église où elle devient prophétesse en fait, cette femme. À 18 ans, donc elle a commencé à être cinéaste, elle a fait des centaines de films. Et voilà qu'en 2012, je crois que la date c'était ça, 2012, elle a eu un grave accident. Elle était en train de parler à, elle était au volant de sa voiture, elle était en train de parler à sa meilleure amie, mais écoute, il serait temps que tu te convertisses. N'attends pas d'être vieille pour le faire. Et à un moment donné, elle lui dit ça, un gros camion qui s'avance et sa copine qui lui dit, c'est quoi ta prière? Et donc là, gros carton, ils se sont encastrés dans le camion, donc perforés, la cage thoracique perforée, commencé à avoir hémorragie interne. Et là, elle s'est sentie proche de la mort. Elle s'est dit, mais c'est pas possible, avec tout ce que j'ai à faire. Et alors, elle dit, c'est fou comme l'esprit a. J'étais tout à fait consciente. Je dis, mais Seigneur, parce qu'elle était croyante, mais tiède. Elle n'avait pas rencontré le Seigneur. Elle était, comme elle dit, mentalement spirituelle. Et ça, ça apporte. Bon, voilà, c'est la foi des bigotes, c'est la foi j'ai fait ma communion, je vais à l'église. Donc là, à ce moment-là, elle s'est sentie vidée de son sang, devenir froide comme du marbre. Et juste au moment où elle se disait, mais Seigneur, c'est pas possible, je vais mourir. Il lui apparaît Jésus. Elle a écrit un livre et elle a fait plein de films pour tes beaux yeux. Elle a rencontré Jésus et Jésus lui dit, si tu savais à quel point je t'aime, et ben ça répondait, Michel, à ce que tu as dit, tu vois, c'est pour ça, va voir cette vidéo. À quel point je trouve pas les mots, c'est pas les termes exacts qu'elle dit. À quel point je suis meurtrie et je souffre de l'indifférence et en fait de la haine des hommes d'être loin de moi parce qu'il ne peut pas œuvrer. En fait, c'est comme elle a eu l'impression qu'on se croisait, que les hommes souffraient, les croyants ou les tièdes ou etc. Voilà, qui suppliaient le ciel, n'arrivaient jamais à rencontrer Dieu. Et lui, il était très malheureux que personne ne vienne à lui pour pouvoir les combler. Et voilà. Donc, mais c'est beaucoup mieux dit. Hein, je ne me souviens plus du tout des mots. Et à ce moment-là, elle a vu les larmes de sang de Jésus, les larmes de sang de ses yeux couler et de son cœur. Et elle a dit, oh, mais c'est le Sacré-Cœur de Jésus dont on m'avait parlé quand j'étais petite, le Sacré-Cœur de Jésus. Elle ne l'avait jamais vu. Et là, elle a réalisé, elle a eu cette vision, elle a réalisé que c'était lui qui lui apparaissait vraiment. Et après, à partir de ce moment-là, il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Et bien, il a dit, mais en fait, ça voulait dire, je ne sais plus ce qu'il a répondu, mais qu'elle prie plus, qu'elle soit plus en union avec lui et qu'il la comblerait, quoi. Et depuis, elle a le feu, elle est super heureuse, elle n'a jamais été comme ça, quoi. elle l'a rencontré, mais ça a été la révélation. Et elle n'est pas du tout déséquilibrée et illuminée du tout, du tout. Maintenant, elle témoigne de sa rencontre, de cet événement. Et voilà, et c'est fantastique. Et même les amis évangélistes, ils font circuler tellement qu'ils trouvent ça en béton. Ils me disent « Oh, que ça nous renouvelle dans notre foi, le bien, qu'est-ce qu'on a avancé ?» On le fait circuler, c'est fantastique. En fait, voilà, ils me remercient parce que c'est tellement fort et beau. C'est rare des témoignages comme ça, quoi. Voilà, c'est assez rare. Donc c'est à voir. C'est à
mais
voir.
Les gens iront voir, se feront un
ah,
avis.
Ah ouais, c'est
sûr.
Nathalie Saraco.
D'accord. Eh bien, on va écouter. Laissez le passé.
C'est ça.
Laissez le passé. On va écouter le présent tout de suite.
Ne pas attendre un prochain frisson. Ne plus rien attendre de la belle saison. Vivre comme l'oiseau de passage jusqu'à demain. Ne pas attendre un meilleur soleil. Ne pas attendre ni la lune ni le miel. La beauté du couchant posée sur un nuage jusqu'à demain. Laissez le passé s'évaporer tout doucement. Laissez les années nous étonner au firmament. S'abandonner dans l'avenir jusqu'à ne plus s'appartenir. Et souffler sur le feu pour que la vie reprenne. Toujours faire de son mieux de ces heures qui s'égrènent. Le galop des chevaux, des pensées qui m'entraînent jusqu'à demain. Ne remettre au lendemain ce qu'on doit accomplir. Caresser un oiseau qui ne veut pas mourir. Savourer le bonheur de t'avoir vu grandir jusqu'à demain. Laisser le passé s'évaporer tout doucement. Laissez les années nous étonner au firmament. S'abandonner dans l'avenir jusqu'à ne plus s'appartenir. Laissez le passé. Laissez les années.
Et voilà, laissez le passé. Ça veut dire carpe diem, carpe diem, tout à fait. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ?
Plein de rencontres.
Est-ce que tu as une question qui me vient ? Bon, tu es malvoyante.
Oui.
Et toi qui crois au miracle, patati, voilà. Tu aimerais que Dieu te redonne la vue ?
Ah oui, j'aimerais beaucoup, mais je vais te dire.
Et alors ?
J'aimerais qu'il me donne même. Oh, tu vois, je ne suis pas très exigeante. Un de dixième que je puisse être autonome. Oh, ça serait, si j'avais six dixièmes, je pourrais conduire. Voilà. Allez, on va dire six. Allez, demandons. Ayons de l'audace.
Mais c'est bientôt Noël, alors. C'est là qu'il
voilà,
faut,
oui,
faut
oui.
commander.
Mais tu sais, mon plus grand bonheur actuellement, tu sais qu'avant, j'avais les yeux et j'étais dépressive, j'étais morbide, j'étais très, très, très mal. Et je m'affichais d'y voir à l'époque parce que je ne pouvais pas comparer. Aujourd'hui, si j'avais réalisé, bon. Mais, aujourd'hui, tu sais, ce qui me rend le plus grand bonheur, c'est d'écrire des chansons, de faire des belles compos, de participer à des festivals, de faire des rencontres de musiciens, de faire des animations chez les gens, chez les particuliers, ou dans des restos, dans des soirées, peu importe. Ça, c'est mon plus grand bonheur. C'est le bonheur intérieur. Les yeux, comment te dire, c'est très gênant, c'est très pénible, parce qu'il faut que j'aille puiser maintenant dans mon imaginaire, dans ma mémoire pour les images et les couleurs. Mais le plus important, c'est la vie, c'est la joie intérieure, c'est notre soleil intérieur. Donc, si je suis heureuse dans mon métier, ben déjà, c'est plus important presque que les yeux. Parce que si j'ai les yeux, bon, en plus du reste, oui. Mais tu vois ce que je veux dire.
Oui,
c'est vraiment un plus. Mais mon plus bonheur, c'est intérieur. Donc, ce que je fais, ce que je vis.
Tu n'as pas peur de la mort, alors?
Alors, j'ai peur de ne pas être assez prête, de ne pas être assez belle intérieurement, assez propre pour... je redoute le purgatoire. Voilà, ça, c'est le truc.
Donc, tu crois à c'est
ah oui, le passage. Le passage de la douche, là. J'y crois et j'aime pas la douche froide. J'aime pas du tout.
Ah bon. Chacun ses croyances. Hein. Voilà. Raymond DeVos disait « Il était une fois la mienne ». Voilà. C'était très...
Oh, il était très bien, c'est Raymond DeVos. C'est bien aussi.
Ah, y a, qu'est-ce que tu crois qu'il y a après la mort, toi ?
Après la mort, je pense qu'il y a notre vie qui commence sans fin. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Là, il y a... D'ailleurs, beaucoup l'expérimentent, la mort imminente, voilà, la lumière, tous ces gens qui reviennent, en ne nommant pas forcément
oui,
Dieu.
Il faut quand même dire que tous ces gens qui reviennent, c'est qu'ils ne sont pas morts.
Oui, mais ils ont quand même passé, ils sont allés à la limite, ils ont eu le choix de revenir ou pas. Et ce n'était pas leur moment, tu vois, ils revenaient comme Nathalie Saraco. Il lui a dit, c'est pas ton moment, c'est pas ton moment.
Ceci dit, moi j'ai eu plusieurs invités qui ont vécu effectivement ce genre de choses.
D'accord, génial.
Oui, tout à fait.
Génial.
Mais bon, c'est
chacun l'appelle.
On croit, on croit pas, c'est-à-dire que...
Voilà, oui, tout à fait.
C'est-à-dire que tant, tu vois les lumières, tout ça, tant que tu n'es pas mort.
Oui, oui.
Et oui, donc la vraie mort, moi je ne sais pas si quand on est vraiment mort, si on revient. Mais
alors elle disait que,
Nathalie
Saraco, madame qui a vécu cette mort, elle disait que physiquement, elle était morte. Elle était froide, elle était de marbre, elle disait, mais son âme était encore là, si tu veux.
Mais tant que le tracé cérébral n'est pas plat, on n'est pas mort.
C'est ça, ouais.
Il y a quand même des explications aussi. Bon, après, c'est vrai que moi je suis le... Je pose les questions justement que tous les gens se posent.
Oui.
Justement, pour qu'il y ait discussion, bien sûr.
Oui.
Parce que sinon, ça ne sert à rien.
Oui. Mais donc, en fait, que ce soit la mort imminente. Oui, tout à fait. Bon, moi, je sais que, par exemple, mon grand-père, je vais te citer autre chose que la mort imminente. Mon grand-père, deux jours avant de mourir, il le sentait et il a mis ses mains en prière. Il s'est promené avec ma tante, sa fille. Il a dit, ne sois pas triste, je vais bientôt mourir. Alors ça l'a choqué parce qu'il était en parfaite forme. Hein. Et puis deux jours après, alors il voulait pas aller au lit. Hein. Ce soir-là, il voulait pas aller au lit. Il avait une appréhension certainement. Hein. Et ils l'ont vu le matin même au bord du lit, parler avec sa mère qui était déjà partie il y a un moment. Hein. Et oui, maman, je vais venir. Oui, ne t'inquiète pas. Et c'était pas du délire. Enfin, moi, je crois, j'ai eu d'autres témoignages pareils. Donc voilà, après il est parti dans la paix, complètement serein, dans le sommeil, magnifique. Voilà, le même jour. Et bon, voilà, après pareil, j'ai un autre témoignage d'un ami, sa sœur, elle était en recherche spirituelle, mais ne connaissait pas le Seigneur. Et quand son père est mort, il était en chambre froide, donc il était vraiment mort. Sa sœur va le voir, et puis elle revient, et elle vient à la maison, elle court, elle me dit, je te le dirai qu'à toi Isabelle, parce que toi tu vas pas me traiter de folle, mais mon père m'a parlé. Je lui dis, ah bon, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit de pas être dans la tristesse et que je sois dans la joie, qu'il était bien, qu'il était dans la lumière et avec le Seigneur. Je lui dis, mais c'est magnifique Yvette, mais tu as eu la révélation, tu es un super témoignage. Et j'ai dit, va le dire à Michel. Donc elle est allée le dire à mon compagnon du moment. Et comme il était croyant, il avait rencontré le Seigneur avec moi. Eh bien, il a été très consolé. Et elle était dans une joie. Elle me dit, mais il faut que je me contienne. Tellement qu'elle ressentait cette joie, cette paix, cette certitude de son père. Tu vois, ça c'est un témoignage, voilà.
Mais je t'écoute et je te crois. Hein.
Voilà.
On va écouter D'où que l'on vienne,
oui.
Parce qu'après, il restera deux chansons qu'on écoutera après les discussions.
Okay.
Parce que c'est bientôt la fin. Hein.
D'accord.
Alors, on écoute D'où que l'on vienne.
Une fenêtre ouverte sur un lit affané, une chemise ouverte sur un cœur abîmé de solitude. Une maison si belle qu'on a dû déserter, une lettre trouvée dans un vieux tablier. Quelle lassitude, d'où que l'on vienne, où que l'on aille, la vie se tisse en représailles, d'où que l'on saigne, quoi que l'on gagne, on s'en... paille. Une fleur que l'on jette encore parfumée. Des choix qui nous arrêtent quand on doit décider. Par habitude. Un chapeau qui rappelle ce qu'on veut oublier. Un tissu qui réveille une émotion cachée. Par lassitude. D'où que l'on vienne, où que l'on aille, la vie se tisse en représailles. D'où que l'on saigne, quoi que l'on gagne, on se ranime nos feux de paille. Un sourire maquillé qui veut dissimuler, une main qui se ferme quand elle veut tout donner. Par habitude. Aimer toujours un père qui n'a rien reconnu. Mourir sur une terre qui n'a rien défendu. Par lassitude. D'où que l'on vienne, où que l'on aille, la vie se tisse en représailles. D'où que l'on saigne.
Voilà, on laisse la chanson derrière parce qu'on arrive à la fin. Je te remercie vraiment d'être venu.
Ben merci à toi, Michel.
Ça m'a permis de. Je précise aux gens qu'on n'est pas sur Radio Présence. Bien
sûr. Oui, j'allais le dire vraiment.
Non, mais bonne discussion, c'est ça. C'est, il faut que tous les gens s'expriment, tous les gens pensent, et voilà. Et chacun sa vie, comme on peut dire. Hein. Tout à fait. Ça va, tu regrettes pas d'être venu?
Ah non, pas du tout.
Bon, c'est super. T'as une chaîne.
Oui.
Extraordinaire.
Tu vois, ça aussi, un cadeau du ciel, ça aussi.
Moi aussi, regarde, j'ai Johan, il est extraordinaire,
ouais, c'est
la
vrai.
Technique.
C'est vrai.
Et bien donc, je rappelle vite, alors le disque, c'est Lise Plume, L-I-2-Z Plume, et le s'appelle À la lueur des mots, et qu'on peut trouver donc sur Facebook.
C'est ça, sur, voilà, j'ai un blog sur Facebook. Sur YouTube, vous verrez 2 ou 3 vidéos, je vais en mettre d'autres. Et puis je vais être aussi sur les plateformes afin de vendre le titre à l'unité si on le souhaite ou l'album entier.
Notre ami Pierre Angéli, c'est ça, non ?
Voilà, c'est grâce à Pierre Angéli, exactement.
D'accord. Bon, eh bien,
et
merci.
Plume sans eux, et Plume sans eux, Lise Plume sans eux.
D'accord.
Voilà.
Et nous, on va se quitter en écoutant donc Nos états d'âme et Tu es mon péché mignon, que tu me dédies, j'espère, bien sûr. Voilà, ben, gros bisous, merci d'être venu.
Ben, merci à vous deux, merci.
Et à très vite.
À très vite.
Ciao, Johan.
Mieux qu'un Noël, plus qu'un sourire. À découvrir qui me rappelle mon insouciance, qui me rappelle nos souvenirs d'enfance. Mieux qu'un printemps où tout respire nos deux destins en point de mire. Un vent qui passe, rien ne menace, tout nous échappe sans laisser de traces. Tous nos états d'âme, tous nos éclats d'âme. Jeter son encre pour le meilleur, jeter sa plume du bout du cœur. Une aquarelle couleur cannelle, un goût de miel sous le soleil. Île sauvage et sans nuages, loin des rivages, nos cœurs voyagent. Mieux qu'un frisson qui nous entraîne, nos souvenirs à perdre haleine. Juste 3 mots pour une passion, juste un voilier posé sur l'horizon. Tous nos états d'âme, tous nos éclats d'âme. Jeter son encre pour le meilleur, sa plume du bout du cœur, mieux qu'un regard que l'on désire, une saison qui nous chavire, une émotion comme repère pour une histoire plutôt rebelle, tous nos états d'âme, tous nos éclats d'âme. Jeter son encre pour le meilleur, jeter sa plume du bout du cœur. Auraient voulu t'effacer. J'ai senti ressurgir le passé.